Le reproche que fait M. Barque à la Révolution de France, celui de la commencer sous un règne plus doux que le précédent, est ce qui fait plus d'honneur aux Français. Les révolutions qui ont eu lieu dans les autres pays de l'Europe ont été excitées par des haines personnelles. La fureur se portait sur le despote et il devenait victime. Mais en France, nous voyons une révolution fondée sur l'examen réfléchi des droits de l'homme et qui distingue dans l'origine les principes d'avec les personnes. Mais il semble que M. Burke n'ait aucune idée des principes lorsqu'il considère les gouvernements. « J'aurais félicité la France il y a 10 ans, dit-il, de ce qu'elle avait un gouvernement, sans m'informer de la nature de ce gouvernement ni de son administration. Est-ce donc là le langage d'un homme raisonnable? Est-ce là le langage d'un homme qui prend l'intérêt qu'il doit prendre au droit et à la félicité de l'espèce humaine? Selon ces données, M. Burke pourrait féliciter tous les gouvernements du monde sans s'inquiéter si les gouvernés, victimes du despotisme le plus affreux, sont vendus comme des esclaves ou exterminés dans les tourments. C'est le pouvoir et non pas les principes que M. Burke révère. Et sous l'influence de cette horrible dépravation, il n'est point propre à en juger. En voilà assez sur ses opinions relativement à la Révolution de France. Je passe maintenant à d'autres considérations. Je connais une place en Amérique que l'on appelle le point sans point, parce qu'à mesure qu'on s'avance le long du rivage, agréable et fleuri comme le style de M. Burke, il semble toujours se reculer et se présenter à une certaine distance devant vous. Mais lorsque vous êtes arrivé aussi loin que vous pouvez aller, il n'y a plus de point. Il en est de même des 366 pages de M. Burke. C'est pourquoi il n'est guère facile d'y répondre. Mais comme on peut s'apercevoir du point ou de la base qu'il voudrait établir en voyant celle qu'il attaque, c'est dans ces paradoxes qu'il faut chercher des arguments. Quant au tableau tragique avec lequel M. Burke se tourmente l'imagination en tâchant de monter celle de ses lecteurs, ils sont fort bien calqués pour des représentations théâtrales où les faits sont arrangés pour émouvoir les spectateurs et leur arracher des larmes par la faiblesse de la sympathie. Mais M. Burke devrait se rappeler qu'il écrit une histoire et non pas des pièces de théâtre, et que ses lecteurs s'attendent à voir la vérité et non pas des hyperboles orientales ou des déclamations emphatiques. Quand on voit un homme se lamenter d'une manière dramatique dans un ouvrage fait pour mériter la croyance, de ce que le siècle de la chevalerie est passé, dire que la gloire de l'Europe est perdue pour toujours, que les grâces non salariées de la vie, si on sait ce que cela veut dire, la défense peu coûteuse des nations, la pépinière des sentiments mâles et des entreprises héroïques sont anéanties, et cela parce que le siècle des bêtises chevaleresques est passé, quelle opinion pouvons-nous former de son jugement? Ou quel égard pouvons-nous avoir au fait qu'il cite? Dans la rhapsodie de son imagination, il a découvert un monde de moulins à vent, et il est affligé qu'il ne se trouve plus de Don Quichotte pour les attaquer. Si le siècle de l'aristocratie, comme celui de la chevalerie, se passe, et ils avaient originairement quelques connexions, M. Burke, le soutien de l'ordre, peut continuer sa parodie jusqu'à sa parfaite extinction, et finir par cette exclamation « Othello n'a plus à présent d'occupation ». Malgré les affreux tableaux de M. Burke, quand on compare la Révolution de France à celle des autres pays, on est étonné que pour l'effectuer, il ait fallu faire si peu de sacrifices. Mais l'étonnement cesse lorsqu'on fait attention que les objets de destruction étaient les principes et non pas les personnes. L'esprit de la nation était aiguillonné par des motifs plus élevés que ce que peut inspirer la considération des personnes, et cherchait une conquête plus grande que la chute d'un ennemi. Dans le petit nombre de ceux qui périrent, il ne paraît pas qu'il y en ait eu un de précisément désigné. Leur sort fut l'affaire des circonstances du moment, et ils ne furent pas poursuivis avec cette vengeance sanguinaire et prolongée que l'on exerça sur les malheureux Écossais dans l'affaire de 1745. Dans tout l'ouvrage de M. Burke, je ne vois pas qu'il ait fait plus d'une fois mention de la Bastille. Ce fut même de manière à faire croire qu'il était fâché qu'elle fût renversée, et comme s'il eût désiré qu'on la rebâtît. « Nous avons rebâti Newgate, dit-il, et nous y avons mis des habitants. Nous avons des prisons aussi fortes que la Bastille pour ceux qui osent faire des libelles contre les reines de France. Quant à ce qu'un fou comme Lord George Gordon peut dire, à qui Newgate tient plutôt lieu des petites maisons que d'une prison, cela n'est point digne de l'attention d'un être raisonnable. C'était un fou qui faisait un libelle, et s'en est dire assez. Ce libelle fournit une occasion de le faire enfermer, et c'est ce que l'on désirait. Mais il est certain que M. Burke, qui ne se croit pas fou, quoi qu'on en puisse penser d'ailleurs, a libellé sans aucune provocation, dans les termes les plus grossiers, et par les injures les plus vulgaires, toute l'autorité représentative de France. Et cependant, M. Burke est membre de la Chambre des communes d'Angleterre. Par la violence et le chagrin qu'il laisse paraître, le silence qu'il affecte sur quelques particularités, et ses excès sur d'autres, il est difficile de ne pas croire que M. Burke ne soit extrêmement fâché que le pouvoir arbitraire, le pouvoir du pape et la Bastille soient détruits. Je ne vois pas dans tout son ouvrage un seul regard de compassion, une seule réflexion de pitié sur ceux qui traînaient une malheureuse existence, une existence sans espoir, dans la plus misérable des prisons. Il est douloureux de voir un homme employer ses talents à se corrompre lui-même. La nature a été plus favorable envers M. Burke qu'il ne l'est envers la nature. La réalité de la misère ne l'émeut point, ne l'affecte aucunement, il n'a l'imagination frappée que de sa ressemblance en brodequin. Il déplore la perte du plumage, mais il oublie l'oiseau mourant. Accoutumé à baiser la main aristocratique qui ne lui permet pas de conserver son caractère primitif, il dégénère en une composition artificielle et les vrais sentiments de la nature l'abandonnent. Il faut que son héros ou son héroïne soit une victime de tragédie qui expire avec éclat. Il ne fait point attention aux malheureux ignorés que la mort enlève en silence dans les ténèbres d'un cachot. Comme M. Burke n'a rien dit de l'affaire de la Bastille, et son silence ne lui est certainement pas favorable, et qu'il a entretenu ses lecteurs de faits supposés travestis en fausseté, je vais faire une courte relation de ce qui a précédé cette affaire. Elle servira à démontrer qu'il était impossible qu'un pareil événement arrivât avec moins d'accidents, si l'on considère d'un autre côté les dispositions hostiles et traîtresses des ennemis de la Révolution. L'imagination peut à peine se figurer une scène plus effrayante que celle qu'offrait la ville de Paris au moment de la prise de la Bastille, et deux jours avant et après cette prise, ou concevoir la possibilité d'y voir sitôt l'ordre rétabli. Dans les pays éloignés, cette affaire n'a paru que comme un acte d'héroïsme, sans aucun rapport avec autre chose, et la liaison intime qu'elle avait avec la Révolution s'est perdue dans l'éclat de l'action. Mais nous devons la regarder comme les forces des deux parties combattant corps à corps pour le gain de la bataille. La Bastille devait être la prise ou la prison des assaillants. Sa chute entraînait l'idée de la chute du despotisme. Et cette double image était figurativement aussi liée que celle du château de Bunyan et du géant désespoir. L'Assemblée nationale, avant et pendant la prise de la Bastille, était à Versailles, à 5 lieues de Paris. Environ 8 jours avant la révolte des Parisiens et la prise de la Bastille, on avait découvert qu'il se formait une conspiration, à la tête de laquelle était le comte d'Artois, le plus jeune frère du roi, pour ruiner l'Assemblée nationale en saisissant les membres et pour faire perdre par ce moyen tout espoir et toute perspective de former un gouvernement libre. Il est heureux pour l'amour de l'humanité et pour celui de la liberté que ce projet n'ait pas réussi. Il ne manque point d'exemples pour prouver quelles vengeances cruelles, horribles, les anciens gouvernements prennent lorsqu'ils réussissent à étouffer ce qu'ils appellent une révolte. Il fallait qu'il y eût déjà du temps pour que ce projet fût médité, parce que pour l'exécuter, il était nécessaire d'assembler une grande force militaire dans les environs de Paris et de couper la communication entre cette ville et l'Assemblée nationale, alors à Versailles. Les troupes destinées à ce service étaient principalement les troupes étrangères à la solde de la France, que l'on tira exprès des provinces éloignées où elles étaient alors en garnison. Lorsqu'on eut fait un rassemblement d'environ 25 ou 30 000 personnes, on jugea qu'il était temps de mettre le plan à exécution. Les ministres alors en place, qui étaient amis de la Révolution, furent renvoyés en un instant, et on forma un nouveau ministère des hommes qui avaient concerté le projet, parmi lesquels était le comte de Broglie, qui eut le commandement de cette armée. Le caractère de cet homme, selon qu'on me l'a dépeint dans une lettre que je communiquai à M. Burke avant que celui-ci eût commencé son livre, et M. Burke savait bien que cette autorité était bonne, était celui d'un grand aristocrate, flegmatique et capable de suivre les mesures les plus pernicieuses. Tandis que tout cela s'agitait, l'Assemblée nationale se trouvait dans la situation la plus critique. Ses membres étaient les victimes désignées, et ils le savaient. Ils avaient en leur faveur les cœurs et les souhaits de leurs concitoyens, mais ils n'avaient aucune autorité militaire. Les soldats du maréchal de Broglie entouraient la salle où ils s'assemblaient, prêts au premier signal à s'emparer de leur personne, comme on avait saisi l'année précédente les membres du Parlement de Paris. Si l'Assemblée nationale avait abandonné son poste, ou si elle avait montré des signes de faiblesse ou de crainte, ses ennemis se seraient enhardis et le pays aurait été opprimé. Lorsqu'on considère la situation des membres de cette Assemblée, la cause dans laquelle ils étaient engagés et la crise dans laquelle ils se trouvaient, qui allait décider de leur destinée personnelle et politique, de celle de leur patrie et probablement de toute l'Europe, lors, dis-je, qu'on rapproche toutes ces images sous un point de vue, il faut être aveuglé par le préjugé ou avoir renoncé à son indépendance pour ne pas s'intéresser à leur succès. L'archevêque de Vienne était alors président de l'Assemblée nationale. Cet homme était trop vieux pour soutenir les événements qui pouvaient survenir d'un moment à l'autre. Il fallait quelqu'un de plus actif et de plus hardi. L'Assemblée nationale choisit, sous la forme de vice-président, et c'est la seule fois qu'il y ait eu un vice-président, M. de Lafayette. Ce fut au moment où l'orage était en l'air, le 11 juin, que M. de Lafayette présenta sa déclaration de droit, la même dont j'ai fait mention, page 10. Ce projet de déclaration avait été fait à la hâte et n'est qu'une partie d'une déclaration plus étendue, adoptée ensuite par l'Assemblée nationale. M. de Lafayette m'a dit depuis que la raison particulière qu'il la lui avait fait présenter dans ce moment était pour que quelques traces des principes de l'Assemblée nationale puissent survivre à ses débris en cas qu'elle fût elle-même destinée à périr dans la tempête qui la menaçait. Tout était alors dans la crise. L'événement allait décider du sort des Français. Le résultat était l'esclavage ou la liberté. D'un côté, une armée de près de 30 000 hommes, de l'autre, un corps de citoyens sans armes. Car les citoyens de Paris, sur lesquels seule l'Assemblée nationale pouvait alors compter, étaient aussi peu armés et aussi mal disciplinés que les citoyens de Londres le sont aujourd'hui. Les gardes françaises avaient paru attachés à la cause de la nation. Mais ils étaient en petit nombre. Ils ne formaient pas la dixième partie de l'armée de Broglie, et leurs officiers étaient de son parti. Tout étant mûr pour l'exécution, les nouveaux ministres parurent en place. Le lecteur doit faire attention que la Bastille fut prise le 14 juillet, et que je parle à présent du 12 du même mois. Lorsque la nouvelle d'un changement de ministère fut parvenue à Paris, vers le midi, on fit défendre les spectacles, toutes les boutiques furent fermées. On regarda le changement de ministère comme le prélude des hostilités, et cette opinion était bien fondée. Les troupes étrangères commencèrent à s'avancer vers la ville. Le prince de Lambesque, qui commandait un corps de cavalerie allemande, s'approcha du côté de la place Louis XV. Dans sa marche, il insulta et frappa un vieillard. Les Français sont remarquables par leur respect pour les vieilles gens. L'insolence avec laquelle le coup avait été porté, jointe à la fermentation générale du peuple, produisit un effet considérable. On cria « Aux armes ! Aux armes !» et ce cri se répandit en un instant d'un bout de Paris à l'autre. Il n'y avait point d'armes, ni presque personne qui en connût l'usage. Mais une résolution désespérée, lorsqu'il y va de tout ce que l'on a de plus cher, supplée pendant quelque temps au manque d'armes. Près de l'endroit où étaient les troupes du prince de Lambesque, il y avait de grands monceaux de pierres pour bâtir le pont Louis XVI. Le peuple attaqua la cavalerie avec ses pierres. Une partie des gardes françaises, entendant tirer, sortit de ses quartiers et joignit le peuple. La nuit survint et la cavalerie se retira. Les rues de Paris sont étroites et conséquemment plus susceptibles de défense. Les maisons y sont fort élevées et de leurs différents étages, on pourrait faire beaucoup de mal à des troupes qui s'avanceraient sans préalablement faire évacuer. Ces deux circonstances empêchèrent, peut-être, qu'on ne rendît une visite nocturne aux Parisiens qui profitèrent de la nuit pour s'armer de tout ce qu'ils purent se procurer, de fusils, d'épées, de marteaux, de haches, de piques, de halbardes, de fourches, de broches, de massues, etc., etc. Le nombre incroyable d'hommes armés de cette manière qui parut le lendemain et la résolution déterminée qu'ils firent paraître embarrassèrent leurs ennemis. Le nouveau ministère ne s'attendait guère à un pareil salut. Accoutumés eux-mêmes à l'esclavage, les ministres n'avaient point d'idée que la liberté fût capable d'une pareille inspiration. Aucun corps de citoyens sans armes osa faire face à une armée de 30 000 hommes. Tous les moments du 13 juillet furent employés à se procurer des armes, à former des plans et à mettre les choses dans le meilleur ordre possible, autant qu'un mouvement si subit pouvait le permettre. Breuil resta dans les environs de Paris, mais ne fit point avancer ce jour-là des troupes vers la ville. Et la nuit suivante se passa aussi tranquillement qu'on pouvait l'espérer dans cet état de choses. La défensive n'était cependant pas le seul objet des citoyens. Il s'agissait d'une cause de laquelle dépendait leur liberté ou leur esclavage. Ils s'attendaient à tout moment à être attaqués ou à apprendre que l'Assemblée nationale l'était, et dans une pareille situation, les mesures les plus promptes sont quelquefois les meilleures. Le premier objet qui se présenta alors fut la Bastille. La prise d'une telle forteresse, en présence d'une armée formidable, ne pouvait pas manquer d'inspirer de la terreur au nouveau ministre qui avait à peine eu le temps de s'assembler. Par des lettres interceptées, on découvrit le matin du 14 que le prévôt des marchands, ce qui répondait alors au maire de Paris, M. de Flessel, qui paraissait être du parti des citoyens, les trahissait, et par cette découverte, on apprit que Breuil devait renforcer la Bastille la nuit suivante. Il fallait donc l'attaquer ce jour-là. Mais avant de l'entreprendre, il était nécessaire de se procurer un meilleur supplément d'armes. Il y avait près de la ville un grand magasin d'armes à l'hôtel des Invalides que les citoyens sommèrent de se rendre. Comme la place n'était point forte et qu'elle ne fit point de résistance, ils réussirent. Avec ce supplément, on marcha à la Bastille. C'était une multitude de tout âge, de toute description, armée de toutes sortes d'armes. Il est impossible à l'imagination de se former une idée d'une pareille procession, ni d'inquiétude où l'on se trouvait sur les événements que quelques heures ou quelques minutes pouvaient produire. Les citoyens de Paris ne savaient pas plus quel plan les ministres formaient que les ministres ne savaient ce que faisaient les citoyens. La ville ignorait également quel mouvement Breuil pourrait faire pour secourir la place. Tout était mystère et hasard. Un événement dont tout le monde est parfaitement instruit, c'est que la Bastille fut attaquée avec un enthousiasme que l'amour seul de la liberté peut inspirer et emporter dans l'espace de quelques heures. Mon dessein n'est pas d'entrer dans les détails de l'attaque, mais de mettre sous les yeux du public la conspiration qui y a donné lieu et qui tomba avec la Bastille. Il était bien juste que la prison à laquelle le nouveau ministère destinait l'Assemblée nationale devint un premier objet d'attaque, quand ce n'aurait pas été d'ailleurs le maître-autel et le château fort du despotisme. Cette entreprise détruisit le nouveau ministère. Chacun de ceux qui le composaient fut alors occupé des moyens d'éviter la ruine à laquelle il avait destiné les autres. Les troupes de Breuil se dispersèrent et lui-même s'enfuit avec elles. M. Burke a beaucoup parlé de complot, mais il n'a pas dit un mot de cette conspiration contre l'Assemblée nationale et contre la liberté de la nation. Et afin de ne pas le faire, il a passé toutes les circonstances qui pouvaient l'y ramener. Les réfugiés français, au sort desquels il prend tant d'intérêt et de qui il tient sa leçon, ne se sont enfuis qu'à cause du manque de succès de cette conspiration. Il n'y eut aucune conspiration de former contre eux, c'était eux, au contraire, qui conspiraient contre les autres. Et ceux qui périrent trouvèrent avec justice la peine qu'ils préparaient aux autres. Mais M. Burke dira-t-il que si cette conspiration, formée avec tout l'art d'une embuscade, avait réussi, le parti dominant eût sitôt arrêté sa colère? Que l'histoire de tous les anciens gouvernements réponde à cette question. Qui sont ceux que l'Assemblée nationale a fait conduire l'échafaud? Personne. Les membres qui la composent étaient eux-mêmes désignés et ils n'ont point fait usage de la loi du talion. Pourquoi donc sont-ils accusés d'une vengeance qu'ils n'ont point prise? Dans l'insurrection terrible de tout un peuple, où toutes les classes et tous les caractères sont confondus et se délivrent par des efforts merveilleux de la ruine méditée contre eux, peut-on s'attendre qu'il n'arrivera rien d'extraordinaire? Lorsque des hommes déjà aigris par le sentiment de l'oppression sont encore menacés d'éprouver de nouveaux griefs, doit-on s'attendre à trouver chez eux le calme de la philosophie ou la paralysie de l'insensibilité? M. Burke se plaint des outrages, et cependant c'est lui qui a commis les plus grands. Son ouvrage est un volume d'outrages, dont il ne peut s'excuser sur l'impulsion du moment, mais qu'il a nourri pendant l'espace de 10 mois. Cependant, M. Burke n'avait point de provocation, il n'y allait ni de sa vie, ni de ses intérêts. Il périt plus des citoyens dans la contestation que de ceux qui s'opposaient à eux. Il n'y eut que 4 ou 5 personnes qui furent saisies par la populace et mises à mort sur le champ. Le gouverneur de la Bastille et le prévôt des marchands, que l'on avait découvert dans un acte de trahison, et ensuite Foulon, l'un des nouveaux ministres, et Berthier, son beau-fils, qui était intendant de Paris. Leurs têtes furent mises sur des pics et promenées par la ville. Et c'est sur ce genre de punition que M. Burke bâtit une grande partie de sa scène tragique. Examinons donc comment l'idée d'un pareil genre de supplice put venir à ces gens-là. Les hommes prennent ordinairement l'habitude de ce qu'ils voient faire dans les gouvernements sous lesquels ils vivent, et rendent aux autres les punitions qu'ils sont accoutumés de voir. Les têtes plantées sur des pics, qui restèrent pendant bien des années sur Temple Bar, n'offrent pas une scène moins horrible que les têtes promenées sur des pics à Paris. Cependant, ce genre de punition avait été exercé par le gouvernement anglais. On dira peut-être que tout ce que l'on peut faire à un homme après sa mort lui est fort indifférent. Mais ce n'est pas indifférent pour les vivants. Cela tourmente leur sensibilité ou les endurcit, et dans l'un ou l'autre cas leur apprend à punir quand le pouvoir est entre leurs mains. Coupez donc l'arbre par la racine et enseignez l'humanité au gouvernement. C'est leur punition sanguinaire qui corrompt le genre humain. En Angleterre, la punition, en certains cas, est d'être pendu, tiré à 4 chevaux et écartelé. On arrache le cœur du patient et on l'expose à la populace. En France, sous l'ancien gouvernement, les punitions n'étaient pas moins barbares. Qui ne se souvient pas de l'exécution de Damien qui fut tiré à 4 chevaux, etc., etc. Les effets que produisent ces spectacles cruels, montrés à la populace, c'est de détruire la tendresse et d'exciter la vengeance. Et en adoptant les idées basses et fausses de conduire les hommes par la terreur au lieu de les convaincre par la raison, on laisse des exemples. C'est sur la plus basse classe du peuple que les gouvernements veulent opérer par la terreur, et c'est sur cette classe que ces moyens produisent les plus mauvais effets. Ces gens-là ont assez de bon sens pour sentir que c'est pour eux que l'on montre ces supplices, et ils infligent à leur tour ces exemples de terreur auxquels leurs yeux sont accoutumés. Il y a dans tous les pays de l'Europe une classe nombreuse d'hommes désignés par le nom de populace. Ce sont des gens de cette classe qui furent coupables des incendies et des dégâts commis dans Londres en 1780. Et ce sont aussi des gens de cette classe qui portèrent dans Paris les têtes sur les pics. Foulon et Berthier furent pris à la campagne et envoyés à Paris pour être examinés à l'hôtel de ville. Mais la populace, irritée à la vue de Foulon et de Berthier, les arracha des mains de ceux qui les gardaient et les exécuta sur la place de Grève. Pourquoi donc M. Burke accuse-t-il une nation entière d'avoir commis des outrages de cette nature? Il aurait aussi bien pu accuser tous les habitants de Londres des émeutes et des excès qui eurent lieu dans cette ville en 1780, ou ses propres compatriotes, des outrages commis en Irlande. Tout ce que nous voyons ou ce que nous entendons qui heurte notre sensibilité et qui dégrade le caractère de l'homme devrait nous conduire à faire des réflexions et non pas des reproches. Les êtres mêmes qui s'en rendent coupables ont quelques droits à notre considération. Comment arrive-t-il qu'une classe d'hommes, désignée par le nom du vulgaire ou de la populace, soit si nombreuse dans les anciens pays? Du moment que nous faisons cette question, La réflexion nous fournit une réponse. C'est une conséquence de la mauvaise construction de tous les anciens gouvernements de l'Europe, sans en excepter celui de l'Angleterre. C'est en élevant quelques hommes d'une manière gigantesque que d'autres sont si cruellement abaissés jusqu'à ce que tout sorte de la nature. On fait ignominieusement servir aux ombres du tableau humain une vaste multitude de l'espèce pour faire ressortir dans un plus grand jour les marionnettes de l'État et l'aristocratie. Dans le commencement d'une révolution, cette multitude suit plutôt le camp que l'étendard de la liberté et n'est pas encore instruite à la respecter. En accordant même à M. Burke que toutes les exagérations théâtrales soient des faits, je lui demande s'il n'établisse pas la preuve de ce que j'avance. En admettant que ces récits soient exactement vrais, ils prouvent la nécessité d'une révolution en France, autant que toute autre chose aurait pu la prouver. Ces outrages ne furent point les effets des principes de la Révolution, mais de l'esprit de dégradation qui existait avant la Révolution et que la Révolution doit réformer. Attribuez-les donc à leur vraie cause et accusez-en ceux de votre parti. Ce qui fait honneur à l'Assemblée nationale et à la ville de Paris, c'est que pendant cette scène terrible de confusion, où l'autorité n'avait aucun pouvoir, elles aient été capables, par l'influence de l'exemple et de l'exhortation, d'arrêter le torrent. Jamais on ne prit plus de peine pour instruire et éclairer l'espèce humaine, et pour faire voir au peuple que son intérêt consistait dans sa vertu et non pas dans sa vengeance, que l'on en prit dans la Révolution de France. Je vais maintenant faire quelques remarques sur la relation que donne M. Burke de l'expédition de Versailles la nuit du 5 au 6 octobre. Je ne puis guère regarder l'ouvrage de M. Burke que comme un drame, et il doit lui-même l'avoir considéré comme tel par les licences poétiques qu'il s'est permises d'omettre des faits, d'en défigurer d'autres et d'arranger toute la machine pour produire un effet de théâtre. Sa relation de l'affaire de Versailles est de ce genre. Il commence cette relation en omettant les seuls faits véritablement connus pour les premières causes de cette expédition. Tout, outre ces faits, n'est que conjecture, même dans Paris. Et il fait ensuite une histoire conforme à ses passions et à ses préjugés. On doit observer que M. Burke, dans tout son ouvrage, ne dit pas un mot de complot contre la Révolution, et c'est de ces complots que tout le mal a pris source. Il lui est apparemment plus convenable de rapporter les conséquences sans parler des causes. C'est en quoi consiste l'art dramatique. Si on faisait paraître les crimes des hommes avec leurs souffrances, les effets du théâtre seraient souvent perdus, et les auditeurs pourraient être enclins à approuver, tandis qu'on a dessein d'exciter leur pitié. Malgré toutes les recherches faites pour découvrir le nœud de cette affaire compliquée, l'expédition de Versailles reste enveloppée dans cette espèce de mystère qui accompagne toujours des événements plutôt produits par un concours de circonstances bizarres que par un dessein prémédité. Pendant que les caractères se forment, comme cela arrive toujours dans les révolutions, il y a des soupçons réciproques et les esprits sont disposés à se soupçonner les uns les autres. Et les partis, même diamétralement opposés en principe, concourent souvent à exciter les mêmes mouvements avec des vues différentes, et dans l'espérance qu'ils produiront des conséquences différentes. On peut découvrir beaucoup de choses de cette nature dans cette affaire entortillée, et cependant l'issue en fut telle que personne ne se l'était imaginé. Les seules choses dont on ait une connaissance certaine, c'est qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes à Paris. À cause du délai qu'apportait le roi à sanctionner et à envoyer les décrets de l'Assemblée nationale, particulièrement celui de la Déclaration des droits de l'homme, et les décrets du 4 août, qui contenaient les bases sur lesquelles la Constitution devait être établie. La conjecture la plus favorable, et peut-être la plus juste que l'on puisse former sur ce sujet, c'est que quelques-uns des ministres avaient dessein de faire des remarques et des observations sur certains endroits de ces décrets, avant de les faire sanctionner et de les envoyer dans les provinces. Mais, quoi qu'il en soit, les ennemis de la Révolution conçurent beaucoup d'espérance de ce délai et il causa de l'inquiétude aux amis de la Révolution. Pendant cet intervalle, les gardes du corps, régiment composé d'hommes fort liés avec la cour, donnèrent un repas à Versailles, le 1er octobre, à quelques régiments nouvellement arrivés. et au milieu du repas, à un signal donné, les gardes du corps arrachèrent de leur chapeau la cocarde nationale, la foulèrent aux pieds et la remplacèrent par une autre cocarde qu'ils avaient dans leur poche. Une indignité de cette nature équivalait à une déclaration de guerre. Et lorsqu'on donne un cartel, on doit s'attendre aux conséquences qui peuvent en résulter. Mais M. Burke n'a point du tout fait paraître ces faits. Il commence sa relation en disant « L'histoire rapportera que le matin du 6 octobre 1789, le roi et la reine de France, après un jour de confusion, d'alarmes, de craintes et de carnages, étaient couchés sous la sécurité de la foi publique pour satisfaire aux besoins de la nature par un répit de quelques heures et un sommeil plein de mélancolie. » Ce n'est point là le style impartial de l'histoire, ni le but qu'elle se propose. M. Burke laisse tout à deviner, il induit même en erreur. On croirait au moins qu'il y a eu une bataille. Probablement il y en aurait eu une si elle n'avait été prévenue par la prudence de ceux que M. Burke enveloppe dans sa censure. En laissant les gardes du corps derrière la scène, M. Burke s'est servi de la licence dramatique de mettre le roi et la reine à leur place comme si l'objet de l'expédition avait été contre eux. Mais continuons notre relation. Cette conduite des gardes du corps, comme on devait s'y attendre, alarma et irrita les Parisiens. Les cocardes de la cause et la cause même avaient trop de rapport pour qu'on ne s'aperçût pas de l'intention de l'insulte, et les Parisiens résolurent d'en demander raison aux gardes du corps. Il n'y avait certainement rien de la poltronnerie d'un assassinat en marchant en plein jour pour demander satisfaction, si on peut se servir de cette expression, à un corps d'hommes armés qui avait volontairement jeté le gantelet. Mais ce qui jette beaucoup d'obscurité sur cette affaire, c'est que les ennemis de la Révolution paraissent l'avoir excité ainsi que ses amis. Les uns espéraient empêcher une guerre civile en arrêtant les choses dans leurs principes, et les autres croyaient en susciter une. L'espoir du parti opposé à la Révolution était de mettre le roi de son côté et de le conduire à Metz, où on aurait rassemblé des forces et planté l'étendard. Il se présente donc en même temps deux objets différents et qui devaient s'effectuer par les mêmes moyens. L'un de châtier les gardes du corps, qui était l'objet des Parisiens, l'autre d'engager le roi, par la confusion d'une pareille scène, à partir pour Metz, qui était celui des ennemis de la Révolution. Le 5 octobre, une foule nombreuse de femmes et d'hommes habillés en femmes se rassemblèrent sur la place de l'Hôtel de Ville et partirent pour Versailles. L'objet avoué de leur voyage était les gardes du corps. Mais les gens prudents savent bien qu'il est plus aisé de commencer que d'arrêter le désordre. Et cette réflexion eut d'autant plus d'effet sur leur esprit dans cette occasion que les soupçons dont j'ai fait mention existaient déjà, et que l'irrégularité de cette cavalcade en excitait d'autres. C'est pourquoi, aussitôt qu'on eut pu rassembler les forces suffisantes, M. de Lafayette, par ordre de l'autorité, se mit à leur suite à la tête de 20 000 hommes de la garde nationale de Paris. La Révolution ne pouvait tirer aucun avantage du désordre, au lieu qu'il pouvait être utile à ses ennemis. Par son affabilité et son adresse, il avait jusqu'ici été assez heureux pour calmer les inquiétudes avec beaucoup de succès. C'est pourquoi, pour frustrer les espérances de ceux qui auraient pu chercher à tirer parti de cette scène, pour justifier la nécessité de faire partir le roi pour Metz, et pour prévenir en même temps les conséquences qui pourraient s'en suivre d'un combat entre les gardes du corps et cette phalange d'hommes et de femmes, il dépêcha des courriers au roi pour l'informer qu'il s'avançait vers Versailles, par ordre de la Commune de Paris, afin de maintenir la paix, et pour lui représenter en même temps la nécessité d'empêcher les gardes du corps de tirer sur le peuple. Il arriva à Versailles entre 10 et 11 heures du soir, il trouva les gardes du corps en bataille, et la populace arrivait quelque temps auparavant. Mais tout était resté en suspens. M. de Lafayette devint le médiateur des deux partis furieux, et le roi, pour calmer les inquiétudes qu'avait occasionné le délai ci-devant mentionné, envoya chercher le président de l'Assemblée nationale et signa la Déclaration des droits de l'homme et tous les autres décrets qui étaient prêts. Il était alors 1 heure du matin. Tout paraissait tranquille et il y eut des félicitations générales. On publia au son du tambour que les citoyens de Versailles donnassent l'hospitalité à leurs concitoyens de Paris. Ceux qui ne purent pas trouver place restèrent dans la rue ou se retirèrent dans les églises. Et à 2 heures, le roi et la reine se retirèrent. Les choses restèrent en cet état jusqu'au point du jour, lorsqu'il arriva un nouveau désordre par la conduite fort blâmable de quelques personnes des deux parties. Car il y a toujours des êtres de ce caractère dans les scènes semblables. Un garde du corps parut à l'une des fenêtres du château, et le peuple qui était resté toute la nuit dans la rue le provoqua par des injures. Au lieu de se retirer, comme la prudence l'exigeait, il présenta ses armes, tira et tua un garde national. La paix étant ainsi rompue, le peuple se précipita dans le palais pour y chercher l'agresseur. Ceux qui étaient entrés attaquèrent les quartiers des gardes du corps et les poursuivirent de chambre en chambre jusqu'aux appartements du roi. Ce tumulte n'avait pas éveillé et alarmé la reine seule, comme M. Burke l'a représenté, mais toutes les personnes du château. Et M. de Lafayette fut encore une fois obligé d'interposer sa médiation entre les deux parties. Le résultat fut que les gardes du corps arborèrent la cocarde nationale et l'affaire se termina là avec la perte de 2 ou 3 hommes. Vers la fin de cette scène, le roi et la reine se montrèrent au public à leur balcon et ni l'un ni l'autre ne fut obligé de se cacher pour être en sûreté, comme M. Burke veut l'insinuer. Le tumulte étant ainsi apaisé et la tranquillité rétablie, il y eut un cri général de « Le roi à Paris ! Le roi à Paris !» Ce fut le cri de la paix et le roi l'accepta sur le champ. Par cette mesure, tout projet futur d'enlever le roi pour le mener à Metz et d'élever son étendard en opposition à la Constitution fut détruit et tous les soupçons s'évanouirent. Le roi et sa famille arrivèrent le soir à Paris et furent complimentés à leur arrivée par M. Bailly, maire de Paris, au nom des citoyens. M. Burke, qui, dans tout son livre, confond les choses, les personnes et les principes, a aussi, dans ses remarques sur l'adresse de M. Bailly, confondu le temps. Il censure M. Bailly d'avoir appelé ce jour un beau jour. M. Burke aurait dû être instruit que cette scène dura 2 jours. Le jour où elle commença avec toute l'apparence du danger et des plus grands maux, et le jour où elle se termina sans qu'aucun des malheurs que l'on craignait arriva. Et c'est à cette heureuse issue et à l'arrivée du roi à Paris que M. Bailly fait allusion. Il n'y avait pas moins de 300 000 âmes dans cette procession de Versailles à Paris, et il n'y eut pas un seul acte d'hostilité dans toute la marche. M. Burke, sur l'autorité de M. Lalitho Landal, déserteur de l'Assemblée nationale, dit qu'en entrant dans Paris, le peuple cria « Tous les évêques à la lanterne !» Il est surprenant que personne n'ait entendu cela que M. Lalitho Landal et que personne ne l'ait cru que M. Burke. Cela n'a point de connexion avec aucune partie de cette affaire et n'a pas de rapport avec la moindre circonstance de cette journée. M. Burke n'avait pas encore fait paraître les évêques dans aucune scène de son drame. Pourquoi donc les présente-t-il subitement et tous ensemble? M. Burke fait paraître ses évêques et sa lanterne comme la figure d'une lanterne magique et relève ses scènes par des contrastes au lieu de liaison. Mais cela sert à montrer, ainsi que le reste de son livre, combien peu de fois on doit ajouter à des ouvrages où l'on n'a pas même égard aux probabilités pour calomnier. Et avec cette réflexion, au lieu d'un soliloque à la louange de la chevalerie, comme l'a fait M. Burke, je termine la relation de l'affaire de Versailles.